Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Huit. Le bardo naturel de cette vie. Suite des portes de la perception. Je n'oublierai jamais comment Dajon Rinpoche, dans un moment d'intimité, se pencha vers moi et me dit de sa voix douce et légèrement aiguë. Tu sais, n'est-ce pas, qu'en vérité, tout ce qui nous entoure disparaît, tout simplement. Cependant, pour la majorité d'entre nous, la faculté de percevoir notre nature intrinsèque et la nature de la réalité est obscurcie par le karma et par les émotions négatives. Nous nous raccrochons alors au bonheur et à la souffrance comme à une réalité et continuons, par nos actions maladroites et ignorantes, à semer les graines de notre prochaine renaissance. Nos actes nous enchaînent au cycle ininterrompu des existences terrestres, à la ronde incessante des naissances et des morts. Par conséquent, tout se joue dans notre monde, dans notre mode de vie présent, à ce moment même. La façon dont nous menons notre vie aujourd'hui peut nous coûter notre avenir entier. Voilà pourquoi nous devons nous préparer, sans plus attendre, à affronter la mort avec sagesse. Et à transformer notre avenir karmique. Nous échapperons ainsi à la tragédie que constitue la chute continuelle dans l'illusion et le retour incessant dans la ronde douloureuse des naissances et des morts. Cette vie représente la seule occasion et le seul lieu qui nous soit donné pour nous préparer. Et nous ne pourrons véritablement le faire que par une pratique spirituelle. Tel est le message inéluctable du bardo naturel de cette vie. Comme le dit Padmasambhava, maintenant que le bardo de cette vie se lève pour moi, j'abandonne la paresse pour laquelle ma vie n'a pas de temps. J'aborde sans distraction le chemin de l'écoute et de l'entente, de la réflexion et de la contemplation et de la méditation. Faisant des perceptions et de l'esprit le chemin, je réalise les trois kayas, l'esprit d'éveil. Maintenant que j'ai obtenu un corps humain, l'esprit n'a plus le temps d'errer sur le chemin. Les trois kayas sont les trois aspects de la vraie nature de l'esprit. Son essence est vide, sa nature rayonnante, et son énergie pénètre tout. Je me demande parfois comment une personne originaire d'un petit village du Tibet réagirait devant l'extraordinaire complexité de la technologie. Si elle se trouvait soudain transportée dans une grande métropole moderne. La sagesse qui réalise le non-ego. Sans doute penserait-elle qu'elle est déjà morte et qu'elle se trouve dans l'état du bardo. Incrédule, elle regarderait bouche bée les avions voler au-dessus de sa tête ou quelqu'un téléphoner à une autre personne aux antipodes. Elle s'imaginerait assister à des miracles. Pourtant, tout ceci semble normal à quelqu'un vivant dans le monde moderne, car l'éducation occidentale lui en a fourni l'explication scientifique, point par point. De la même façon, il existe dans le bouddhisme tibétain une éducation spirituelle fondamentale, normale et élémentaire. Un entraînement spirituel complet au bardo naturel de cette vie qui nous fournit le vocabulaire essentiel, l'ABC de l'esprit. Les bases de cet entraînement constituent ce que l'on appelle les trois outils de sagesse. La sagesse de l'écoute et de l'entente. La sagesse de la contemplation et de la réflexion. Et la sagesse de la méditation. Grâce à ces outils, nous sommes amenés à nous éveiller de nouveau à notre vraie nature et à découvrir puis à personnifier la joie et la liberté de notre être véritable, ce que nous appelons la sagesse qui réalise le non-ego. Imaginez une personne qui se réveille soudain à l'hôpital après un accident de la route pour s'apercevoir qu'elle souffre d'une amnésie totale. Extérieurement, elle est la même. Son apparence physique, son visage sont indemnes. Son sens et son esprit fonctionnent. Mais elle n'a pas la moindre idée, ni le moindre souvenir de qui elle est réellement. De même, nous ne pouvons nous rappeler notre véritable identité, notre nature originelle, en proie à la frénésie et à une réelle terreur. Nous nous mettons en quête d'une identité de remplacement. Nous nous en improvisons une, à laquelle nous nous accrochons avec tout le désespoir d'une personne qui tomberait continuellement dans un abîme. Cette fausse identité, adoptée par l'ignorance, est l'ego. Ainsi, l'ego se définit par l'absence d'une connaissance véritable de ce que nous sommes réellement, et par la conséquence même de cette ignorance. La tentative, vouée à l'échec, de nous raccrocher désespérément à une image de nous-mêmes, fabriquée de toutes pièces, une image de fortune, un moi inévitablement charlatan et caméléon, contraint de changer sans cesse pour garder vivante la fiction de son existence. En tibétain, l'ego est appelé Dakdzin, ce qui signifie s'accrocher à un moi. L'ego est donc défini comme les mouvements incessants d'attachement à une notion illusoire du « je » et du « mien », du « soi » et de l'autre, ainsi qu'à l'ensemble des concepts, idées, désirs et activités qui entretiennent cette structure fictive. Un tel attachement est vain dès le départ et nous condamne à la frustration. Car il ne repose sur aucune base ni aucune vérité. Et ce que nous essayons de saisir est, de par sa nature même, insaisissable. Le fait que nous éprouvions le besoin de nous attacher ainsi aux choses et que nous continuions à le faire avec une ténacité jamais démentie, indique que nous savons au plus profond de nous que le moi n'a pas d'existence intrinsèque. C'est ce savoir obscur et obsédant qui est à la source de toutes nos peurs et de notre insécurité fondamentale. Tant que nous n'aurons pas démasqué l'ego, il continuera à nous berner. Tel un politicien véreux, claironnant sans fin de fausses promesses. Un avocat, inventant sans relâche stratagèmes et mensonges ingénieux. Ou un animateur de show télévisé, parlant sans cesse et entretenant un flot de bavardage mielleux et convaincant, mais vide de sens en réalité. Des vies entières d'ignorance nous ont conduits à identifier la totalité de notre être à l'ego. Le plus grand triomphe de celui-ci est de nous avoir leurrés en nous convainquant que ses intérêts étaient les nôtres et en nous faisant même croire que notre survie allait de pair avec la sienne. L'ironie est cruelle quand on considère que l'ego et sa soif de saisie sont à l'origine de toute notre souffrance. L'ego est pourtant si convaincant. Il nous a dupés depuis si longtemps que la pensée qu'un jour nous pourrions vivre sans lui nous terrifie. Être sans ego, nous susurre l'ego. serait perdre le charme merveilleux de notre condition humaine, pour n'être réduit qu'à de tristes robots, à des zombies. L'ego joue avec brio sur notre peur fondamentale de perdre le contrôle et sur notre crainte de l'inconnu. Nous pourrions par exemple nous dire « Je devrais vraiment abandonner l'ego, je souffre tant. » Mais alors, qu'adviendra-t-il de moi ? Et l'ego ajoutera de sa voix douce « Je sais que je te pose parfois des problèmes. Crois-moi, je comprends très bien que tu veuilles me quitter. » Mais est-ce réellement là ce que tu souhaites ? Réfléchis bien. Si je m'en vais, que va-t-il t'arriver ? Qui s'occupera de toi ? Qui te protégera ? Qui prendra soin de toi comme je le fais ? Depuis tant d'années. Mais si nous pouvions démasquer les mensonges de l'ego, nos peurs nous interdiraient de l'abandonner. En effet, sans une connaissance réelle de la nature de l'esprit ou de notre véritable identité, nous ne voyons pas d'autre alternative. Nous nous soumettons continuellement à ses exigences, avec la même haine de soi morose qu'un alcoolique tendant la main vers la boisson, tout en sachant qu'elle est en train de le détruire, ou qu'un toxicomane cherchant sa drogue, à tâtons, conscient qu'après une brève euphorie, il se trouvera à nouveau, prostré et désespéré. L'ego sur le chemin spirituel. C'est pour mettre un terme à cette singulière tyrannie de l'ego que nous nous engageons sur le chemin spirituel. Pourtant, les ressources de l'ego sont presque infinies. Et à chaque étape de notre progrès, il peut venir saboter et pervertir notre désir de nous affranchir de lui. La vérité est simple et les enseignements extrêmement clairs. Mais dès l'instant où ceci commence à nous toucher, je l'ai hélas souvent constaté avec tristesse. L'ego s'efforce de les compliquer. Car il sait qu'il menace le fondement même de son existence. Quand, au début, nous sommes fascinés par la voie spirituelle et par toutes les possibilités qu'elle offre, l'ego peut même nous encourager. C'est vraiment merveilleux, nous dira-t-il alors. Tout à fait ce qu'il te fallait, cet enseignement. Est parfaitement juste. Puis, lorsque nous dirons que nous voulons essayer la pratique de la méditation ou faire une retraite, l'ego susurrera « Quelle idée fantastique ! Je vais venir avec toi, tous les deux. Nous allons apprendre quelque chose. » Pendant toute la période de lune de miel de notre développement spirituel, il n'aura de cesse de nous encourager. C'est merveilleux, extraordinaire, tellement inspirant. Mais dès que nous en arriverons à la partie plus terre à terre du chemin spirituel, et que les enseignements commenceront à nous affecter en profondeur, nous serons inévitablement confrontés à la vérité de ce que nous sommes. À mesure que l'ego sera révélé, ces points sensibles seront touchés et toutes sortes de problèmes apparaîtront. C'est comme si l'on installait en face de nous un miroir dont nous ne pouvons nous détourner. Le miroir est parfaitement clair, mais un visage laid qui nous regarde fixement, d'un air mauvais, y apparaît. Et c'est le nôtre. Nous commençons à nous rebeller car nous haïssons ce reflet. Dans notre colère, nous en arrivons même parfois à frapper le miroir et à vouloir le détruire, avec pour seul résultat qu'il se brise en centaines de visages identiques et laids qui nous regardent fixement. C'est à ce moment que nous commencerons à enrager et à nous plaindre amèrement. Et où se trouvera notre ego? À nos côtés. Loyal, il nous exhortera. Tu as tout à fait raison, c'est un scandale, c'est insupportable. Ne te laisse pas faire. Tandis que nous l'écouterons subjugué, il continuera à susciter toutes sortes de doutes et d'émotions insensées, et à jeter de l'huile sur le feu. Tu vois bien que ce n'est pas un enseignement pour toi. Je te l'avais dit. Tu vois bien que ce n'est pas le maître qu'il te faut. Après tout, tu es un occidental, intelligent, moderne, cultivé. Le zen, le soufisme, la méditation, le bouddhisme tibétain, toutes ces pratiques exotiques appartiennent à des cultures étrangères, orientales. À quoi pourrait bien te servir une philosophie inventée dans l'Himalaya, il y a un millier d'années? L'ego, jubilant, nous regardera, nous empêtrer de plus en plus dans sa toile. Il n'hésitera pas à rendre l'enseignement et même le maître responsable de toute la douleur, la solitude et les difficultés que nous rencontrerons à mesure que nous apprendrons à nous connaître. De toute façon, ces gourous se moquent de tout ce que tu dois endurer. Tout ce qui les intéresse, c'est de t'exploiter. Ils n'utilisent les mots « compassion » et « dévotion » que dans le but de te maintenir sous leur coupe. L'ego est si rusé qu'il peut détourner les enseignements à son profit. Après tout, le diable peut citer les Écritures à ses propres fins. L'arme ultime de l'ego est de montrer hypocritement du doigt le maître et ses disciples en disant: personne ici ne semble vivre en accord avec la vérité de ses enseignements. L'ego se pose alors en arbitre vertueux de toute conduite. Voilà bien l'attitude ingénieuse entre toutes pour ébranler votre foi et miner la moindre dévotion. Le moindre engagement que vous pouviez avoir envers une progression spirituelle. Cependant, quelle que soit l'ardeur de l'ego pour tenter de saboter votre chemin spirituel, si vous n'abandonnez pas, si vous travaillez en profondeur avec la pratique de la méditation, vous réaliserez progressivement de quelle manière vous avez été berné par ces promesses, ces faux espoirs et ces fausses peurs. Vous commencerez à comprendre lentement que l'espoir et la peur sont ennemis de la paix de votre esprit. L'espoir vous trompe et vous laisse démuni et déçu. La peur vous paralyse dans la cellule exiguë de votre fausse identité. Vous vous apercevrez aussi que l'emprise de l'ego s'étendait à votre esprit tout entier. Dans l'espace de liberté que vous aura ouvert la méditation, quand vous serez momentanément libéré de la saisie dualiste, vous entreverrez un bref instant l'immensité exaltante de votre vraie nature. Vous réaliserez que votre ego, en véritable maître escroc, vous allerez pendant des années avec des plans, des projets et des promesses dépourvus de toute réalité, qui vous ont seulement conduit à une faillite intérieure. Lorsque vous percevrez cela dans la sérénité de la méditation, sans aucun réconfort, ni désir de camoufler ce que vous avez découvert, alors tous les plans et les projets se révéleront inconsistants et commenceront à s'écrouler. Ce processus n'est pas purement destructeur. En même temps qu'une réalisation extrêmement précise et parfois douloureuse du caractère frauduleux et virtuellement criminel de votre ego, ainsi que de l'ego de tous, se développeront en vous un sentiment d'expansion intérieure. Une connaissance directe de l'interdépendance et du non-ego de toute chose. Ainsi que cet humour vif et généreux qui caractérise la liberté. Quand par la discipline, vous aurez appris à simplifier votre vie et réduit ainsi les occasions de séduction de l'ego, quand vous aurez pratiqué la vigilance de la méditation et relâché, grâce à elle, l'emprise qu'ont sur vous agressivité, possessivité et négativité, alors pourra s'élever lentement la sagesse de la vue profonde. Dans la clarté révélatrice de sa lumière, les rouages les plus subtils de votre esprit et la nature de la réalité vous seront dévoilés distinctement et sans détour. C'était le livre tibétain de la vie de la mort par Sogyal Rinpoche. Suite. Prochain épisode, le guide de sagesse. À bientôt, dans la quatrième dimension.